Bonjour tout le monde, merci d'être présent pour ce premier Electronic Lab organisé par Technopole, Haute Fidélité et la Lune des Pirates. Avant de faire un petit tour de table, on va vous présenter rapidement nos structures.
Moi je suis Thomas, je représente Technopole et d'autres structures, mais on aura l'occasion de revenir dessus. Technopole, du coup, c'est une association qui est née en 1996 et qui a pour but de représenter les musiques électroniques auprès des plus hautes institutions, le ministère, la SACEM et autres. Et depuis quelque temps, on a aussi pour mission d'aider les professionnels de tous les territoires français à se professionnaliser sur moult sujets, à les accompagner, les aider à se structurer. Donc on épaule pas mal de territoires. Pas mal de territoires sont aussi en train de se structurer et on essaye de les accompagner là-dedans. Voilà, dans les grandes lignes, on a pas mal d'actions là qu'on est en train de mener aussi en parallèle. On a un gros projet où on va essayer d'amener du court-circuit dans la musique électronique. Voilà, on est pas mal dessus. On organise également la Technoparade et la Paris Electronics Week, les deux en septembre. En général, un peu en quinconce, on essaye de faire justement vibrer un événement avec l'autre. Et la Paris Electronic Week, c'est une énorme rencontre de professionnels où on essaye d'avoir des intervenants un peu plus importants, des gros DJ, des gros organisateurs qui viennent justement pour essayer de parler de diverses expériences et divers sujets.
Super. Moi, c'est Antoine. Je travaille pour Haute Fidélité, qui est le réseau régional des musiques actuelles pour la région Hauts-de-France. Un réseau régional, qu'est-ce que c'est ? C'est une fédération qui regroupe aujourd'hui un peu moins d'une centaine de structures. Nos adhérents sont des salles de concerts, des festivals, des labels, des écoles de musique, des radios. Et notre rôle, c'est de structurer du coup cet écosystème-là à cette échelle régionale. On a plusieurs missions, notamment dans les grandes lignes, donc une mission d'observation dont le but, c'est de produire de la donnée en rapport avec les acteurs des musiques actuelles et qui sert aussi à alimenter un plaidoyer politique. Donc, c'est-à-dire qu'on va représenter les acteurs en se servant de ces données via des études, des rapports, etc. On a une mission d'info-ressources, donc en gros, qui consiste à collecter des informations sur le secteur et de la redistribuer aux acteurs. Ça passe notamment par un site qui s'appelle musique-hdf.org où on peut retrouver des fiches pratiques, un annuaire régional, les appels à candidature, les appels à projets, etc. On a une mission d'appui aux acteurs, donc là ça a plus ce qui est relatif aux formations ou à de l'accompagnement à la structuration. Donc, ça passe par des rendez-vous, un peu poussé sur des thématiques sur lesquelles on va être sollicité, des adhérents qui ont des problématiques particulières sur des sujets ou qui veulent travailler des thématiques particulières. Et enfin, on a un volet qu'on appelle concertation et coopération qui va du coup plus relever de la mise en lien entre les acteurs. Donc ça passe par des groupes de travail thématiques sur l'accompagnement artistique, la santé des artistes, etc., etc. Et aussi un volet coopération vers l'extérieur, c'est-à-dire comment on crée du lien avec d'autres organisations au niveau national comme Technopole, comme la Fédélima, qui est une fédération nationale des lieux de musique actuelle, etc., etc. On est donc une asso avec 5 salariés permanents et, donc, comme je vous le disais, un peu moins d'une centaine de structures adhérentes. Et je passe la parole à Vincent pour que tu fasses un petit mot de présentation sur la Lune.
Bonjour, je pense que vous me connaissez. Donc, je suis Vincent, chargé de l'accompagnement à la Lune des Pirates. La Lune des Pirates, c'est une salle de concert labellisée SMAC depuis 91, 12, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Voilà, mon métier, ça consiste en fait à accompagner les musiciens et les musiciennes dans une recherche de développement, de professionnalisation. Voilà, et puis après j'organise aussi tout ce qui est ressources, c'est-à-dire l'organisation d'ateliers, de masterclass, de réunions, d'informations, de rencontres aussi, des fois des apéros rencontres. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus là-dessus ? C'est déjà pas mal. Et bienvenue en tout cas à la Lune, et bienvenue à Technopole et à Zélie.
Merci pour l'accueil. Peut-être un petit mot pour contextualiser Electronic Lab et après on fera le tour des participants et des intervenantes. Je peux introduire, si tu veux, les Electronic Labs. Donc, c'est des temps qui ont été conçus par Technopole dans l'idée de créer de la rencontre, des échanges et de donner de l'info aux acteurs et actrices des musiques électroniques. Et l'idée, de ce que je comprends, c'est que les thématiques qu'on aborde, elles doivent résonner avec des problématiques territoriales et avec les enjeux propres à ce que peuvent vivre des collectifs et des acteurs sur un territoire.
C'est exactement ça. En gros, dans l'idée, on essaye d'aller à la rencontre d'acteurs pour essayer de comprendre les problématiques des territoires. Et on essaye de voir comment d'autres territoires ont pu régler ces problématiques-là et d'essayer de faire rencontrer ces acteurs. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la musique électronique était très cloisonnée en France et que ça ferait pas de mal de la décloisonner, de se rendre compte que sur les territoires, on n'est pas seul, qu'on est tous un peu billes en tête avec nos événements, on a des programmations, on a tous nos rythmes, et qu'en fait, quand on ouvre les yeux, on se rend compte qu'il y a d'autres gens autour de nous, pas si loin de nous, qui ont déjà réglé ces problématiques, et c'est plutôt une bonne chose. Et du coup, on pousse pas mal dans ce sens-là. On peut déjà vous dire qu'il y a deux autres Electronic Lab qui arrivent. Il y en aura un sur organiser des événements au sens plus large et un autre sur comment trouver des lieux alternatifs qui seront du coup les deux à Amiens et je crois même ici.
Ouais, peut-être.
Je sais plus.
Info en exclusivité. Et juste aussi pour rappeler que cette rencontre, elle s'effectue aussi un peu en écho à une rencontre qui avait eu lieu l'année dernière qui était organisé par des membres de la SDMEA et notamment Noé, je me souviens, qui avait lancé un questionnaire pour recenser un peu les problématiques des acteurs à Amiens. Donc ça s'appelait la DJ Assemblée et du coup, voilà, cette rencontre aujourd'hui, elle s'inscrit vraiment dans cette continuité-là, d'où le fait d'inviter des fédérations locales. Pour créer des ponts. Et juste du coup, pour revenir sur le format Electronic Lab, l'idée, c'est vraiment de créer un temps d'échange. Donc, n'hésitez pas à intervenir, à prendre la parole. La seule contrainte, ça serait juste de parler dans le micro pour qu'on puisse bien vous entendre enregistrer. On va vous proposer du coup de faire peut-être un petit tour de table et de salle pour présenter juste rapidement votre prénom et la structure que vous représentez. Pour vous expliquer un peu le déroulé de la rencontre, on va prendre une première heure à peu près pour présenter les deux initiatives Union et Résonance. Et ensuite, ça sera un moment où vous aurez plus la parole et dont la thématique sera plus centrée sur Amiens. Je te laisse la parole, Zélie, si ça te va.
Bonjour, du coup moi je m'appelle Zélie, je suis DJ et productrice et je suis coprésidente de la fédération Union à Caen en Normandie qui regroupe 5 collectifs de musique électronique sur le territoire cannais et c'est pour ça que je suis là, voilà.
Moi je suis Thomas, du coup je suis également DJ et producteur, je suis président de l'association Infrason, cofondateur et membre du CA du collectif Résonance qui est aussi un réseau un peu plus d'une vingtaine d'acteurs sur Grenoble et sur le territoire isérois et je suis depuis peu administrateur de Technopole.
Moi je m'appelle Charlie et ce soir je représente le collectif Les Moreux Électriques.
Je vais continuer parce que Les Moreux Électriques, voilà, c'est un collectif qui est né l'année dernière, en fait, qui est né du constat que les femmes étaient sous-représentées dans le milieu. Alors nous, on est plus particulièrement dans le milieu électro. J'ai pas l'impression que ça marche, ouais. Dans le milieu électro. Et voilà, le but, c'est de mettre en avant les femmes et les minorités de genre sur la scène et aussi en arrière, quoi. Enfin, je veux dire, au niveau technique. Donc, on a créé des événements de mix. Hein. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est beaucoup, beaucoup centré sur l'électro. Moi, je mixe. Il y a Mo aussi qui a mixé dans le cadre de nos soirées. En gros, c'est ça, quoi. Puis on fait plein de trucs autour, mais en gros, voilà, c'est mettre en avant, mettre en lumière les femmes sur la scène et particulièrement la scène électro.
Hop. Bonjour à tous, je m'appelle Benoît, moi je suis DJ principalement sur Lille, encore un petit peu sur Amiens, où j'organise pas mal d'événements en solo avec mon collectif Marwal Records. Voilà.
Bonjour à tous, moi c'est Nicolas Ossiba. Voilà, je représente Make My Day, qui va être une association qui va se créer dans très peu de temps. Voilà, auparavant, j'ai co-dirigé une structure qui s'appelle Prolific, autour du DJing et des musiques électroniques pendant 25 ans. Et voilà, j'ai une petite connaissance de réseau, du coup, et c'est des problématiques qu'on a rencontrées déjà jusqu'alors. Et donc, pour Make My Day, ça va être une association qui va travailler sur. Noé à côté en parlera mieux que moi sur un pôle dédié au statut, la défense des artistes pour une meilleure rémunération, une meilleure reconnaissance, avec aussi des aspects sensibilisation sur tous les divers risques qu'il peut y avoir en milieu festif. Et voilà, plein de choses thématiques qui pourraient être liées au statut du DJ, la reconnaissance aussi de l'artiste. Un pôle de production aussi, surtout plutôt d'action culturelle, de formation, vraiment avec un développement. Peut-être de la pédagogie, l'accompagnement aussi d'artistes qui pourraient aussi avoir une vocation par rapport à ça sur les formations, sur les accents culturels, sur la transmission de savoir, quitte à créer des supports, quitte à innover d'un point de vue pédagogique. Et puis un aspect aussi production, dans le sens où aide aussi à l'accompagnement artistique, pas en tant que coaching sur scène, mais vraiment sur le plan des productions, le mixage, le mastering, la compo, la promo, etc. Vraiment un accompagnement un peu sur mesure, si j'ose dire, pour développer la scène et être à l'écoute et puis dynamiser un peu le territoire avec les autres structures, avec les autres crews, avec les autres artistes. Voilà, voilà. Donc Noé à ma gauche parlera mieux du pôle 1 du coup, et voilà, merci.
Noé, DJ producteur, cofondateur de Make My Day. C'est très bien résumé, je ne vais pas en rajouter sur Nicolas, simplement je précise aussi que on veut accompagner des artistes issus des musiques dites underground, en fait des musiques sous-représentées, et donc forcément il y a le volet électro, techno et musique électronique en général, mais aussi un pan du rap. Et sinon, je suis également membre du SDMEA, et je laisserai les fondateurs en parler un peu plus.
Bonsoir à vous, moi c'est Mo, aka Le Caméléon. Aujourd'hui, je faisais partie d'un collectif où nous sommes en train de repartir sur une nouvelle structure. Également, j'ai mis un pied avec les Morues électriques qui m'ont permis de faire des scènes et également de l'action culturelle avec la Lune également. Et également, je fais partie des membres de SDMEA également sur Amiens.
Bonjour à tous, moi c'est Marcus, je suis DJ et compositeur. Je représente également SDMEA ce soir, qui est une association qui vise à fédérer les acteurs de la scène amiénoise et à développer aussi la musique électronique sur le terrain amiénois, pour faire bref.
Alors moi c'est Thomas Cosette, alias Thomas Samco, je suis président de SDMEA. Alors SDMEA, ça veut dire scène des musiques électroniques, et le but c'est de fédérer, structurer, professionnaliser les acteurs de la scène amiénoise en tout cas. Et je suis président du label Emotia Record, qui est un label plutôt techno. Voilà.
Trop cool, plein de super projets. Est-ce que tu veux présenter Union ?
Alors du coup, Union existe juridiquement, officiellement depuis 2 ans, mais on travaille sur cette fédération depuis le sortir du Covid. Donc maintenant 3-4 ans quand même. Du coup, on est, comme je disais, on est 5 collectifs. Je peux vous les nommer, mais ça ne va pas vous donner grand-chose. Mais en gros, il y a Black Moon, dont moi je fais partie officiellement. Et du coup, j'arrive dans Union par Black Moon. On a Les Villageois, on a Oise, on a No One Like Us et le collectif Culotté. On a décidé de se réunir ensemble, notamment par rapport à la fête de la musique, où à Caen, la fête de la musique, ça ressemble un petit peu à un technival en plein air. Et au lieu de faire plein de petits murs et de petites structures un peu partout, on a décidé de se réunir pour pouvoir faire un truc qui a un peu plus de carrure et qui nous permettait aussi de ne pas s'éparpiller et de ne pas gêner trop les autres groupes de musique dans le centre-ville. Et voilà. Et notamment de pouvoir faire un volet événementiel au BBC, qui est une SMAC à Hérouville-Saint-Clair, qui est collée à Caen. Nous, à Caen, on a la particularité d'avoir deux SMAC, une vraiment en centre-ville et une dans la périphérie. Union, à la base, c'était vraiment ce volet événementiel-là. Et quand Anthony et moi, Anthony qui est coprésident avec moi de la structure, on s'est beaucoup concerté. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était aussi d'aller sur un côté de lobbying, parce qu'à Caen, il y a très peu de salles qui permettent de faire des musiques électroniques. Et c'est toujours d'ailleurs malheureusement un vrai problème. Et il se trouve qu'à Caen, on a énormément de collectifs. Déjà, juste dans Union, on représente à peu près 50 DJ, ce qui est énorme. Et on n'est absolument pas les 5 seuls collectifs à Caen. Il y en a, au moins une dizaine d'autres. Et du coup, c'est un petit peu la guerre entre tout le monde pour pouvoir se produire, pour pouvoir diffuser de la musique, faire jouer les DJ, etc. Et nous, se réunir, du coup, ça permettait de répondre déjà à cette problématique-là, de pas se marcher sur les pieds, de faire les choses ensemble et de pouvoir avoir un impact un peu plus grand auprès des institutions, notamment la mairie, qui n'a pas compris que les musiques électroniques, c'était quelque chose aujourd'hui, je pense. Et voilà, donc on a voulu faire des open air. Principalement, c'était un gros projet qui nous tenait à cœur, et de faire des open air sur l'été ensemble. On a réussi à monter un dossier, à avoir l'aval du service culturel de la mairie, et il se trouve que bon, ça a bloqué ailleurs, ça ne s'est jamais fait, mais on n'a pas dit notre dernier mot, et l'idée c'est de pouvoir vraiment d'autant plus pouvoir faire valoir l'importance de travailler ensemble et de débloquer des lieux pour les musiques électroniques. Et évidemment, on voulait également travailler sur l'aide à la professionnalisation. Et ça nous permettait en fait d'avoir une plateforme qui peut faire rebond sur toutes les informations, toutes les initiatives qui sont liées à la professionnalisation dans le secteur des musiques actuelles, notamment Technopole. On a une structure qui s'appelle Norma en Normandie qui gère justement l'accompagnement aux musiques actuelles, la SACEM, tout ça, parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des DJ en fait ne connaissaient absolument pas ces dispositifs, ne connaissaient pas l'existence d'aides financières, de formations, d'ateliers, etc. Et nous, avec Union, étant en première ligne en termes de communication en fait avec le public, avec les autres structures, avec les DJ et tout ça, ça nous permettait en fait d'avoir une plateforme pour donner de l'information, quoi. Voilà, sachant qu'en plus Union actuellement est en train de se transformer, donc ça je pourrais revenir un peu plus tard, mais parce qu'on aimerait du coup inclure d'autres collectifs dans Union, s'agrandir et pouvoir avoir une portée au régional, donc haute et basse Normandie. Voilà, c'est ce sur quoi on travaille en ce moment.
Alors du coup, moi je vais vous présenter Résonance. Pour un peu de storytelling, on va revenir 7 ans en arrière. Il y a du coup quelques années, même un peu plus que 7 ans, la mairie grenobloise a investi énormément d'argent pour ouvrir une nouvelle salle de concert qui s'appelle La Belle Électrique, qui avait pour vocation de devenir une SMAC, principalement centrée autour des musiques électroniques. C'est une très belle salle, si un jour vous passez à Grenoble, allez-y. Aujourd'hui, la mairie grenobloise revient un peu sur ses pas. Moult problèmes de gestion ont fait que le projet fait toujours des événements de musique électronique, mais est différent. Et du coup, dans cet élan, la mairie a lancé un appel à projet pour essayer de créer une vitrine des musiques électroniques à Grenoble avec une subvention de 20 000 euros. Et l'idée c'était de créer cette vitrine, essayer de montrer que Grenoble, en musique électronique, ça claque. Et cet appel à projet a été récupéré par ADRA, le festival qui est grenoblois. Et heureusement qu'on les avait eux, parce que du coup on avait une équipe de salariés, mais pareil on pourra du coup y revenir. Et du coup, ils ont répondu à cet appel à projet. On s'est tous réunis autour d'une table, ou en tout cas tous les acteurs qui étaient intéressés. Et sachant qu'à Grenoble, il y a un vivier qui est assez dense. C'est une ville qui est très étudiante. Du coup, il y a beaucoup d'associations qui naissent, qui meurent, des projets qui viennent, qui reviennent pas. Il y a un vivier qui évolue de manière assez continue et surtout énormément d'associations qui se connaissent pas toujours, qui ont des esthétiques très diverses. Et du coup, quand on s'est tous retrouvés autour de cette table avec ce projet de faire une vitrine, bah, en fait, on s'est dit, mais c'est pas ça qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est se regrouper ensemble. En fait, là, on se retrouve autour de la table. On s'était jamais retrouvés autour de la table. On aborde des sujets qu'on n'avait jamais abordés. C'est peut-être juste le moment d'en parler, peut-être le moment d'avancer tous ensemble. Et du coup, on est allé dans cette idée-là. On a commencé à se réunir pendant un an à intervalle de 3 semaines. Alors, il y avait des réunions qui étaient plus productives que d'autres. Forcément, il y avait des moments où il fallait aussi définir pourquoi on se retrouvait. C'est pas toujours évident. Des fois, on savait pas exactement le projet où aller. On avait juste 20 000 euros et on savait pas exactement comment agencer tout ça. Et au final, on a fini par mettre des projets en place. On a fini par mutualiser des compétences, des moyens. Petit à petit, on a commencé à acheter du matériel qu'on a mutualisé aussi. En fait, aujourd'hui, Résonance, c'est ça. C'est un réseau où plein d'acteurs se retrouvent, où on a une grosse mutualisation de, bah, déjà par exemple, de matériel. On a acheté une régie complète, CDJ, DJM, et on se la loue entre adhérents. Résonance loue aux adhérents à un prix qui est préférentiel et moins cher que les loueurs, ce qui permet de ne pas éclater les budgets des soirées, ce qui est plutôt agréable. On a eu pas mal d'actions. On a notamment monté un gros gros projet qui s'appelle Sister Act avec le collectif Move Your Gambette, qui est un gros programme de formation en non-mixité choisie où du coup on accompagne des femmes et des personnes non-binaires pendant un programme d'un an où on essaye de les former à mixer techniquement la MAO. Et tous les enjeux qu'il y a avec la vie artistique, la communication, la production, vendre son projet, l'administratif, facturer, pas facturer, les GUSO, la SACEM, etc. Pour la petite histoire, Move Your Gambette, c'est également un collectif grenoblois qui a été monté par la DJ Bernadette, qui aujourd'hui est résidente au Sucre. Et qui vient aussi de Grenoble. Et du coup, voilà, tout ce vivier a permis de. Elle était déjà partie de Grenoble, mais ça nous a permis de revenir et de monter ce projet-là, qui continue encore et qui attaque sa 4e ou 5e édition, je ne sais plus. Mais là, voilà, on attaque la 5e promo, 4e, qui a été accueillie à Caen. C'est beau. Voilà. Dans les grandes lignes, ça nous a permis du coup de créer pas mal de nouveaux collectifs aussi. Par exemple, la première promotion de Sister Act, on crée un collectif ensemble qui s'appelle Les Filles de la Sœur, qui tourne pas mal et du coup c'est plutôt cool, ça fait vraiment plaisir. Voilà, ça c'est pour Sister Act. Et après, du coup, on a là depuis quelques années mis en place des formations qui sont à destination à la fois des publics et des professionnels. On a deux types de formations. On a les formations dites organisationnelles, où on va parler de tous les métiers qui tournent autour de l'organisation des événements et de tout, comme là on est en train de se retrouver ce soir, de sujets et d'enjeux. Nous, on les cadre plus autour de vraiment métiers et de positions. Le but, c'est d'apprendre des tâches de l'administration, de la production, de la comptabilité, enfin voilà, tous ces trucs-là qui permettent à des bénévoles de prendre aussi en compétence parce qu'on a jugé que c'était important. Il y a beaucoup de gens qui bénévoles et qui investissent de leur temps et à défaut de retrouver de l'argent, ils peuvent au moins repartir avec des compétences. Il y en a quand même, enfin voilà, savoir faire de l'administration, c'est quand même un truc qui sert toute sa vie et quoi qu'on fasse, pour la comptabilité pareil. Et on a d'autres formations on a des formations mix qui, elles, du coup, sont à destination de tous les publics avec un échelonnage de niveau. Et on a des formations MAO, soit aux machines, soit à l'ordinateur. Mais à chaque fois, on invite un artiste qui maîtrise son sujet en collaboration avec une salle et qui permet d'avancer. Voilà, pour les actions au sens assez large. Résonance, on a eu vraiment beaucoup de chance dans la conception, du coup, comme je vous disais, c'est que déjà on avait Adra qui a pu porter le projet au début, qui avait des équipes salariées, parce qu'on s'est vite retrouvé coincé face à, quand on se retrouvait, bah, en fait, on a tous notre activité, on a tous déjà nos études, nos travaux, enfin nos tafs dans la vie, et le soir, on rentre et on organise nos événements, et on prépare nos sets du samedi, etc., etc., et le temps manque. On est tous face à cette problématique et en fait, Adra, notamment la directrice Émilie Angenieux, l'ex-directrice Émilie Angenieux, a pu vraiment porter le projet parce qu'elle y croyait à fond et y investir le temps et aller chercher en nous cette motivation d'avoir ce réseau. Et il y a une autre chance qu'on a à Grenoble, c'est d'avoir une salle qui s'appelle L'Ampérage, qui est une salle entièrement associative et qui ne produit aucun événement, autoproduit aucun événement dans sa salle. C'est une salle qui est juste, qui a juste pour but d'être mise à disposition des acteurs à un prix très intéressant. Et en fait, ils créent du lien, ils accompagnent les acteurs. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que Grenoble est une ville qui est très étudiante. Et en fait, il suffit qu'il y ait un groupe de 6 personnes qui aient envie de représenter une esthétique. Ils créent un collectif, ils vont à L'Ampérage, ils se font accompagner de A à Z sur leur premier événement. Et du coup, ça leur permet de prendre en compétence, de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre comment on fait un budget, comprendre comment on fait tourner sa billetterie, etc. Et L'Ampérage nous a vraiment beaucoup aidé aussi dans l'accompagnement du coup de ce projet-là et dans le fait de structurer notre scène, parce qu'en fait on avait déjà cette mentalité, on avait déjà des références communes, on produit tous dans les mêmes salles, on connaît du coup ces mêmes personnes, etc. Et la directrice de L'Ampérage nous avait vraiment beaucoup aidé. Assez rapidement du coup on a eu un service civique. Pareil, on a eu pas mal de chance pour le service civique parce qu'on avait un membre du CA qui était là depuis la conception, qui pile à ce moment-là cherchait un service civique. Du coup, il a quitté le CA et il a pu intégrer... Enfin, il connaissait toutes les problématiques qui allaient avec. Et là, du coup, on a notre sixième service civique. C'est ça qui, du coup, jusqu'à il y a peu, était toujours accompagné et du comité et du conseil d'administration et d'une personne salariée d'une des structures. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, en l'occurrence ADRA. Et là, c'est en train de changer parce qu'il y a eu du mouvement dans les équipes d'ADRA. Mais voilà, dans les grandes lignes.
Est-ce qu'il y a déjà des questions par rapport à la naissance de ces projets? Est-ce que ça résonne par rapport à Amiens ou à vos problématiques? Moi, j'ai une petite question. Ah, tiens, je te laisse la parole.
Bon, moi, j'ai une remarque. C'est qu'on finalement, on a tous un peu les mêmes problèmes, n'importe quelle ville. On a fait des tables rondes à Lille, c'est les mêmes problèmes. Enfin, finalement, c'est... Voilà, quoi. C'est juste une remarque comme ça.
C'est, ouais, c'est
Amiens, un peu... c'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes problèmes de structure. Enfin, voilà.
C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça fait partie des constats de Technopole, de tous les territoires ont les mêmes problèmes et qu'en fait, des fois, les entendre d'autres personnes qui les ont eus et qui les ont résolus ou non, mais qui au moins se sont engouffrés déjà dans ce problème-là, ça permet d'essayer d'avancer aussi sur notre propre réflexion et notre propre scène, parce qu'en fait, les villes sont les mêmes. Hein. C'est pas parce qu'elles n'ont pas le même nom et pas les mêmes salles qu'on n'a pas les mêmes problématiques.
Et donc tu parlais de service civique, du coup pour venir un peu sur votre fonctionnement aujourd'hui, comment ça se passe? Est-ce que c'est les seules personnes salariées? Est-ce que vous fonctionnez qu'avec des bénévoles? Ou est-ce qu'il y a une ambition de potentiellement à terme débloquer un emploi ou pas?
Alors pour Résonance, là du coup, nous ça fait des années qu'on travaille vraiment en tant que comité d'administration, qu'on essaye de se réunir une fois par mois. En général, du coup, il y a toujours plein de trucs, ça dure toujours 3 heures, mais ça fait partie du deal. Et là du coup, ça fait 6 ou 7 ans qu'on a une service civique, beaucoup de une depuis quelques années, et on a envie de les accompagner, mais là, comme je disais tout à l'heure, on commence à avoir la problématique de plus avoir de salariés qui les accompagnent à plein temps, parce que mine de rien, un service civique est aussi une mission, enfin, c'est un engagement en tant que structure d'accueillir un service civique. Il faut que la personne ressorte formée, à minima, sur pas mal de sujets, de missions, et un CA, ça peut pas toujours, enfin, ça peut pas accompagner à plein temps, comme on a tous, encore une fois, nos taf, c'est bénévole, et du coup, on ne peut pas accompagner un service civique à l'année. Là, du coup, ça fait un petit moment qu'on réfléchit, on est en pleine restructuration de la manière dont fonctionne Résonance, de faire en sorte que des membres du CA s'emparent de sujets qui soient vraiment précis, qui soient à eux. Et on réfléchit à terme à essayer d'avoir au moins un mi-temps qui puisse accompagner du coup et garder le service civique et qui puisse du coup s'accompagner les deux et un peu mieux suivre les travaux du CA et en vrai à deux, ce sera plus simple.
Du coup, nous, on n'a aucun salarié dans la structure pour le moment. Et comme je disais tout à l'heure, on est en train de re-réfléchir complètement Union et son fonctionnement à l'heure actuelle parce qu'on se rend compte que notre fonctionnement ne fonctionne pas. parce que là du coup, dans le conseil d'administration, du coup, on est une fédération sous forme associative, hein. Et dont les cinq collectifs qui sont aussi sous association sont membres du CA et sont membres de la fédération et le conseil d'administration est composé du coup de deux représentants de chaque collectif pour prendre les décisions etc sur qu'est-ce qu'on fait de tout ça quoi. Et on se rend bien compte que, comme tu disais, avec les tafs de chacun, et puis en plus dans les collectifs, même s'il y a des gens qui sont soit déjà professionnels, soit en vocation à vouloir se professionnaliser dans les musiques électroniques, que ce soit en tant qu'artiste ou technicien, administration, etc., etc. Il y a aussi des gens qui dont c'est juste la passion du week-end et c'est difficile de demander le même investissement de la part de chaque personne du conseil d'administration de pouvoir se réunir je sais pas une fois par mois ou des fois quand il y a des dossiers à faire, des trucs à rendre une fois par semaine. Enfin, on se rend compte que c'est assez compliqué d'être justement sur ce bénévolat là. Du coup, nous clairement, là, on est en train de réfléchir à Anthony et moi pouvoir être, du coup, se sortir du bureau et pouvoir être salarié de la structure. Et on a une vraie, enfin, on a cette vraie question sur le système de gouvernance où, en gros, on imagine quelque chose qui est beaucoup plus pyramidal que ce que ça n'est aujourd'hui, en se mettant des warnings de. Ouais, mais c'est une fédération qui est quand même faite à destination et pour les collectifs. Du coup, on est un peu dans ce truc de demi-mesure où on a vraiment envie de pouvoir avoir le plein pouvoir sur le lead et comment ça se passe, sur quel timing, etc. Et pouvoir se rémunérer là-dessus parce qu'en fait, c'est un taf qui est monumental. Et à la fois, réfléchir à comment on inclut dans un système de décision, etc., les collectifs qui font partie ou sont adhérents de la fédération. Donc voilà, nous, on est vraiment sur cette problématique-là en ce moment parce qu'on se rend compte que si là, on continue tel quel, Union va mourir. On n'a plus l'énergie de faire de l'événementiel, le côté plus politisé, etc., ça intéresse tout le monde, mais c'est vraiment Anthony et moi qui portons ça un peu à bras-le-corps. Et s'il n'y a pas de changement significatif dans notre fonctionnement, ça pourra pas être périn, quoi. Donc c'est un peu triste, mais on essaye de mettre des choses en place. Et après, j'avance peut-être un peu sur les sujets, mais il se trouve que nous, on a la chance d'avoir un gros appel à projet là, à l'automne sur lequel on voudrait répondre justement sur la mutualisation sur le territoire, etc., qui nous permettrait de débloquer des fonds pour justement reconsidérer ce fonctionnement et pouvoir... croisons les doigts, touchons du bois, pouvoir dégager des salaires, quoi.
Je me permets juste de rebondir, justement, ça m'a fait penser à un truc que je ne vous ai pas dit, c'est qu'avec Résonance, on n'organise absolument aucun événement. Ça faisait vraiment partie des choses importantes. Des premières réunions où on s'est retrouvés autour de la table, en fait, on s'est dit, forcément qu'on en a parlé, de se dire, ouais, on se retrouve tous ensemble, on va faire des bêtes d'événements, on va installer des scènes de fou dans des parcs, on va se retrouver à 20 collectifs et ça va être énorme. Et en fait, rapidement, on s'est dit que c'était pas le but. Du coup, tout le monde a déjà son activité, on a déjà tous plein d'événements. Si on veut se retrouver, on fait des collaborations, il n'y a pas de souci. De toute façon, maintenant, on se retrouve autour de la table une fois par mois, donc ça, on peut en discuter à la post-club du CA et ça fonctionne très bien. Mais on s'est dit que ça marchait un peu sur les plates-bandes des activités qu'on avait déjà. Et du coup, le seul événement qui est porté chaque année par Résonance, c'est la soirée de clôture du projet Sister Act. Et qui est du coup entièrement porté par Résonance, c'est pas par les collectifs membres de Résonance. Et voilà, qui permet juste d'aboutir le projet en mettant du coup en valeur la promotion de cette année sur un line-up où elles sont toutes là. Mais voilà, on était vraiment parti du principe que c'était assez important de pas multiplier cette activité d'événementiel, que ce soit pour la ville, que ce soit les publics, qui n'est pas non plus une pluie d'événements, parce qu'au final, ça nuit à l'économie de tout le monde, et qu'après, sur le temps et l'implication de chacun, forcément, ça finit avec des trucs où tout le monde n'arrive plus à s'impliquer comme il le devrait ou comme il le pourrait.
Si je peux rebondir. nous, le volet événementiel, c'était quelque chose qui était très, très important pour nous de conserver dans Union. Déjà parce que la pénurie de lieux faisait que nos 5 collectifs ne pouvaient pas avoir accès tous aux lieux. Et du coup, faire des événements via Union permettait aux DJ d'Union de pouvoir avoir accès à des plus grosses salles. Et du coup, on voulait vraiment mettre ça en valeur avec Union. Et dans comment on est en train de repenser les choses, on veut aussi conserver un volet événementiel, même si effectivement c'est très chronophage et parfois du coup ça vient tout manger sur le reste, mais c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, mais où là on serait plus dans une visée de, vu qu'on serait sur l'ensemble de la Normandie, de pouvoir en fait avoir comme 5 événements, un par département, et du coup avoir une circulation en fait des artistes, ne serait-ce que à l'échelle de la Normandie, quoi.
Moi, j'ai une petite question, on en a un petit peu parlé, il y a une question dans le public juste avant.
Ouais, j'ai une question pour vos deux collectifs. C'est quelle proportion d'artistes, je veux dire, combien, là tu as parlé de 5 collectifs sur Union, ça représente quoi comme proportion par rapport à votre ville, première question. Et du coup, deuxième question, ces collectifs-là, quelles actions vous avez mises en place pour arriver à les convaincre en fait, de se fédérer autour d'une structure commune?
Du coup, j'ai un peu répondu tout à l'heure. Du coup, nous, Union, c'est à peu près 50 DJ. Et il doit y avoir comme une vingtaine de collectifs sur Caen. Donc on est une toute petite portion, mais on est dans cette portion-là, on est vraiment les plus gros et les plus actifs. À part, j'allais dire Ethereal Decibel, rien à voir. À part Mad Brains, qui est un gros gros collectif aussi qui fait pas partie d'Union. Mais sinon, on a un peu. On est un peu les plus centraux et les plus anciens aussi. Et nous, on s'est retrouvés par affinité. Vraiment, parce que quand c'est quand même petit, du coup, tout le monde se connaît. Et il y a des guéguerres, des guéguerres d'égo, tout ça. Et nous, on n'était pas trop là-dedans. Et on était tous copains et on s'aimait tous bien les uns les autres. Et on s'est dit, on va faire des choses ensemble, quoi.
Alors nous, je pourrais pas te dire combien on a d'artistes précisément, parce que les adhérents sont tous des collectifs. Du coup, j'ai pas le détail après de combien d'artistes ont chaque collectif. Nous, justement, l'idée, c'était de pas spécialement représenter les musiques via ceux qui étaient sur scène, mais de représenter la musique électronique via tout ce qui se passe aussi dans l'ombre, et de représenter aussi les bénévoles et toutes ces petites mains qui font que les événements existent. Et c'était vraiment important. Du coup, et j'avoue que j'en avais pas parlé tout à l'heure, mais du coup, nous, au CA, c'est chaque collectif a une voix. On peut venir à plusieurs au CA, mais à la fin, on n'a qu'une voix. Et du coup, chaque adhésion est vraiment par collectif. Les premiers collectifs à être entrés, du coup, c'était quand Adra a fait l'appel à projet, ils ont contacté les plus gros. Du coup, on s'est tous retrouvés autour de la table, on en a discuté. Et aujourd'hui, du coup, comme on commence à être assez nombreux, déjà, on a deux types d'adhésion. On a l'adhésion, on va dire, normale, où juste tu es membre du réseau. Et tu peux profiter de l'actualité du réseau, de la mutualisation de matériel dont je parlais tout à l'heure, etc. Et on a l'adhésion en tant que membre du CA. Et là, du coup, il y a de l'engagement plus dans la structure, notamment d'être là à tous les CA. Et là, du coup, on est quand même un panel où on représente pas mal d'esthétiques et on a un peu vent aussi des nouvelles actions, des petits collectifs qui naissent à droite à gauche. Et en général, soit les collectifs finissent par venir d'eux-mêmes pour demander à rentrer chez Résonance, soit nous, de bouche à oreille, à un moment, on croise en soirée, petit à petit, on est devenus potes avec ce nouveau collectif, machin, on leur en parle, on leur dit « rejoins le réseau, tu verras ». Ça coûte pas cher, c'est bien, c'est utile. Et en général, ils finissent par rentrer. Et du coup, chaque nouvelle entrée est toujours votée au CA, toujours favorablement. Je crois pas qu'on ait eu de cas inverse. Mais on n'a pas que des collectifs, on a aussi des salles. On trouvait ça important de représenter tous les acteurs de la musique électronique. Et ça, on a eu moult discussions sur savoir si on rentrait les salles de la même manière. Que les collectifs, parce que forcément il y a aussi un peu des rivalités entre les salles, entre les collectifs, entre tel collectif et telle salle, enfin bref, les guerres d'égo de ville et de chaque ville. Et du coup, au bout d'un moment, on a arrêté de se poser la question et on a juste accepté les salles comme étant adhérents normaux et sans leur créer de statut particulier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a deux salles grenobloises, la Belle Électrique et l'Ampérage. Et on avait la bobine avant, mais pour moult histoires, ils n'y sont plus. Mais voilà.
Ouais, du coup, j'enchaîne. Et est-ce que tu penses que tu pourrais préciser un petit peu, du style, quand tu contactes un collectif ou que tu as vent de l'arrivée d'un nouveau collectif, quand tu présentes Résonance, du coup, qu'est-ce que tu mets en avant, argument tu donnes à un collectif pour lui dire que effectivement c'est utile et c'est bien de rejoindre le collectif au-delà du fait que c'est pas cher, etc.
Et ben justement parce que on est vraiment un réseau, que l'idée c'est pas de cumuler des activités, c'est pas d'aller chercher à faire des événements, c'est pas tout ça, mais c'est d'essayer de les impliquer aussi dans la vie culturelle de la ville, de leur faire comprendre que c'est aussi important de nous aider à représenter les musiques électroniques, de se serrer les coudes face aux institutions, face aux problématiques réelles dans lesquelles on peut se retrouver. Pour te donner un exemple assez concret, là, il n'y a pas longtemps, on a eu une grosse réunion à la mairie, avec la mairie de Grenoble, sur leur initiative où ils ont invité l'intégralité des collectifs qui avaient fait des demandes au TEP pour les open air. Et on s'est tous retrouvés autour de la table pendant une très longue réunion de 5 heures qui a, bon, dans les faits, pas servi à grand chose, mais ça c'est ma version à moi. Mais l'initiative était vraiment chouette de la part de la mairie, de se dire ben, on invite tous les collectifs, on se met autour de la table avec le service culturel, le service événementiel, et on déroule le truc et on parle de leurs problèmes à eux, les problèmes qu'ils peuvent avoir avec les riverains, etc. Nous, on leur a parlé de nos problèmes d'économie d'événements, de pas fermer un événement à 21h, mais plutôt à 22 ou 23, parce que c'est là que le bar tourne. Et eux, ils nous ont fait part de leurs trucs avec les riverains, etc. Et ça, c'est tout ce genre de choses que tu peux amener à des nouveaux collectifs, de leur faire comprendre que eux, quand ils viennent faire leur demande au TEP, eh ben, c'est aussi grâce à nous s'ils arrivent à avoir le droit jusqu'à 21h, ou si la mairie leur paye les toilettes sèches, et ce genre de choses, et qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à participer au débat, essayer de les impliquer comme ça. Ça ne se fait pas en un jour, et ça a été très compliqué pendant longtemps. Là, le truc, c'est qu'aujourd'hui, Résonance commence à être pas mal identifié parmi les professionnels de la ville, enfin professionnels et amateurs, mais on s'entend, les collectifs, quoi. Et le fait que la structure, maintenant, soit un peu plus représentée, fonctionne un peu mieux, on a pas mal de collectifs qui juste finissent à un moment quand ils jugent qu'ils ont la taille suffisante à se dire bah j'ai aussi envie de faire partie de ça. Et surtout au sein de Résonance, on s'en sort pas si mal. Comme on représente tellement d'esthétiques et de gens qui se croiseraient pas du tout en dehors des réunions qu'on pourrait avoir, ça ouvre juste vachement les horizons et la vision qu'on peut aussi avoir de notre propre scène, parce que des fois on se met nos tunnels de techno ou de house, et en fait tu te rends compte que juste à côté il y a les copains, ils font du dub et c'est très bien, et que t'avais juste jamais ouvert les yeux sur leurs événements. Et voilà, c'est plein de petits trucs comme ça qui mis bout à bout, et la régie complète à 50 balles, ça aide pas mal. Je vais pas te mentir, ça c'est un bon point d'entrée.
J'ai une question pour vous deux. Ça a été un peu évoqué déjà, mais quels sont précisément les rapports que vous avez avec la mairie, enfin les institutions, les collectivités, les techniciens qui vont avec, et les salles? pour schématiser, est-ce que c'est vous qui allez vers eux ou eux qui vont vers vous? Est-ce que c'est plus compliqué que ça? Enfin, voilà.
Plus compliqué que ça. Alors, les salles, c'est du cas par cas. Et ça, j'imagine que c'est un peu partout dans toutes les villes, ou en tout cas de l'expérience que j'ai des autres villes, c'est un peu comme ça. Ça dépend juste de la direction de la salle et de la vocation que la salle a à interagir avec la scène locale. Comme je vous disais, on a l'ampérage. L'ampérage, c'est que de l'interaction avec la scène locale. Du coup, eux, quand ils ont appris que Résonance existait, ils ont dit on y va, on soutient. Nous, tous ces petits collectifs, c'est nos bébés, on y va, on veut vous voir vous réunir, on veut vous voir monter contre la mairie, on veut vous voir vous unir en une voix. Ils nous ont soutenus dès le début. Label électrique, il y a eu un peu plus d'échanges, ça a été un peu plus compliqué. Aujourd'hui, ça se passe un peu mieux, mais on va dire qu'on a eu des hauts et des bas. Et à l'inverse, on a le Dracart. Et le Dracart, c'est un club. On n'a que trois vraies salles à Grenoble à exploiter. Et là, du coup, la troisième, c'est le Dracart. Et le Dracart, c'est un club où le mec il remplit quasiment tous les week-ends. Il n'en a rien à faire de la scène locale. De toute façon, les gens viennent chez lui. Et lui, pour le coup, ne rentrera absolument jamais au CA. Je pense qu'il ne connaît même pas Résonance. Et que si demain, on venait lui en parler, il nous dirait « Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute ?» Et voilà. Du coup, c'est voilà. Et la mairie, c'est une autre question. La mairie, c'est un travail de tous les jours. La mairie, y a un des vrais problèmes de la mairie, c'est que, enfin, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça partout. Mais quand tu crées du lien avec des personnes du service culturel, que tu arrives à montrer qui tu es, à montrer que ton réseau il est important, que tu représentes plein de voix, plein de personnes, que tu mets des chiffres dessus, de genre on organise 100, enfin nos adhérents organisent une 150 soirées par an, ça fait tant de chiffres d'affaires, enfin tu vois, tu arrives avec vraiment des trucs qui impactent un peu, bah tu vas avoir un interlocuteur ou une interlocutrice, ça va marcher pendant un an et puis cette personne là elle va changer de travail, elle va pas t'envoyer de mail et tu vas te taper sa remplaçante ou son remplaçant et puis bah la personne tu recommences et c'est cyclique. Et je crois que c'est juste un truc sur lequel il faut pas perdre patience. C'est comme ça, c'est un peu comme ça partout. Et des fois t'arrives vraiment au max et tu te dis ouais let's go, on a vraiment des super liens. Et en fait si la personne elle est mutée dans une autre mairie, ben tu recommences à zéro.
Ouais, pour rebondir sur la mairie, ouais c'est ça. Et surtout aussi entre services. Enfin nous on a eu vraiment ce souci là sur les open air justement, où le service culturel était genre « Mais on ne peut pas vous dire non, c'est magnifique ce que vous nous présentez, tout ça. » et après, c'est passé par le service ERP, ils nous ont regardé en mode « Bah non. » « Ok, d'accord, très bien. Bon, bah non alors. » Enfin ouais, donc c'est compliqué. Après, clairement, nous, le service culturel, ils nous ont accueillis à bras ouverts parce que ça les arrangeait vraiment, vraiment bien d'avoir un seul interlocuteur pour plusieurs collectifs, quoi. Parce que ça leur fait un peu peur, cette pluralité, et de pas savoir à qui s'adresser, comment s'adresser. En plus, c'est en moitié des amateurs, on sait pas trop, c'est compliqué. Du coup, la fédération permet vraiment de pouvoir avoir un rendez-vous plus vite, que ce soit plus efficace, plus simple, et même nous, en amont, de pouvoir préparer les choses ensemble et d'y aller que à deux, par exemple, au lieu de se retrouver avec 10 interlocuteurs, interlocutrices. Et là, la mairie elle panique. Hein. Donc voilà. Pour les salles, ouais. Nous, du coup, on a deux salles principales, donc le Cargo en centre et le BBC excentré. Le BBC, comme je disais tout à l'heure, nous, on a un volet événementiel avec eux. Et pareil, ils étaient ravis de pouvoir avoir un seul interlocuteur pour, au lieu d'avoir 5 demandes, en fait, de n'en avoir qu'une, et que nous, en interne, on puisse faire un roulement des DJ, qu'il y ait un DJ par assaut qui mixe sur telle soirée, qu'on fasse une soirée techno, une soirée hard, parce qu'en plus, oui, dans Union, il y a une diversité des styles qui est. Il y a de tout, quoi. Donc là, oui, c'est à nous de, en interne, s'organiser pour que tout le monde soit représenté, que ce soit en équité, etc. Et parce que je pense que sinon, très clairement, au BBC, ça aurait été peut-être une asso qui aurait pu faire des soirées là-bas, parce que ça reste des salles de concert et de musique actuelle, ils font pas que de la techno. Et c'est tout. Point barre. Donc là, ça permet d'avoir accès, quoi. Et avec le Cargo, c'est différent encore parce que du coup, le Cargo, en plus, est Antenne Rôle et Technopole. Du coup, on travaille beaucoup avec eux sur faire le lien avec Technopole. On a des électrolabs, dont le premier, qui est le 9. Donc, dans quelques jours, foufou. Donc, ouais. Et en fait, le cargo, du coup, centre-ville, tout ça, en plus, qui est héritier de Nordic Impact, qui est devenu NDK là, depuis quelques années, ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe actuelle du cargo, je dirais pas n'y connaît rien en techno, parce que ce serait vraiment méchant de ma part de dire ça, et pas vrai en plus, mais d'une part, il y avait une envie de travailler avec les acteurs et actrices locaux, et d'autre part, il y avait ce truc de dire, bah, en fait, vous êtes les plus à même de parler de ce qui se passe dans votre scène. Et du coup, il y a eu, autour de NDK et de la reconstruction de NDK, du festival, etc., il y a eu des concertations auxquelles toutes les associations étaient bienvenues. Et à la fin des concertations, c'est décidé que les associations locales participeraient à la programmation. En fait, on faisait un groupe de travail par rapport à la programmation de NDK. Et de fait, le fait que Union représente 5 collectifs, pour eux, c'était super parce que ça permettait d'avoir peu d'interlocuteurs, interlocutrices autour de la table, mais les voix de tout le monde à la fois. Et du coup, ça fait 3 ans là qu'on travaille avec le cargo sur NDK et plus globalement sur les problématiques des musiques électroniques sur le territoire.
Je viens de repenser aussi pour avoir des nouveaux adhérents pour la question juste qu'il y avait eu avant. Il y a du coup, comme je te disais, on a 2 types d'adhérents. On a ceux qui sont au CA et ceux qui sont juste adhérents. Donc en général, le premier truc pour les faire rentrer, c'est de leur présenter les avantages d'être adhérent. Et si après tu veux les impliquer plus, ce qui fonctionne très bien en général, c'est une assemblée générale assez bien présentée. Et tu réunis un peu tous tes adhérents, tu fais en sorte que ton assemblée générale elle pepse un peu, que ce soit cool, que tu présentes des trucs, et à la fin du coup quand tu demandes qui veut rentrer au CA, bah t'as des nouvelles personnes et ça permet de tous les ans renouveler un peu ton CA. Et en fait, juste comme il y a des collectifs aussi qui meurent ou qui arrêtent, ou des gens qui vieillissent et qui se disent qu'ils vont juste se concentrer aussi sur leur activité, et plus forcément qu'ils n'ont plus le temps sur le réseau, etc. Et ben en fait, juste tu renouvelles comme ça. Alors ça implique de reformer aussi de nouvelles personnes, mais ça amène aussi de nouveaux cerveaux et de nouvelles manières de voir la scène et de manières de penser, et c'est plutôt cool.
Est-ce que c'est en lien avec les adhérents ou pas ? Non ? Je peux juste poser une question. Pour compléter, est-ce que vous avez des critères d'adhésion ? Quel type de critères c'est, si vous en avez ? Est-ce que vous avez des chartes aussi à respecter ? Est-ce qu'il y a des choses rédhibitoires ou des attentions particulières dans le fait d'avoir de nouveaux adhérents et de favoriser l'adhésion ?
Alors,
tu veux compléter ou ?
Là, c'est effectivement, comment on peut être. Enfin, nous, on essaie en fait de faire des événements safe. Enfin, j'imagine comme vous aussi. Maintenant, comment on fait ? Parce que ça suffit pas de le dire. Enfin, il suffit pas de le dire. Voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour, pour avoir des événements safe ? Parce que c'est pas toujours le cas. Et voilà quoi. Donc voilà.
Peut-être d'abord aux adhérents.
Alors pour l'événement safe, je pourrais pas y répondre là comme ça. C'est une question vraiment vague. Je vais juste revenir du coup sur les adhérents. À Résonance, du coup, on a une charte qui regroupe un ensemble de valeurs, que ce soit la parité, que ce soit la gestion des VHSS et de tous les autres cas qu'on puisse croiser en soirée, que ce soit les certains dirigeants aussi qui ont des égo trips ou ce genre de choses. On ne s'est jamais vraiment retrouvé dans le cas où vraiment on pouvait pas intégrer une structure, mais ça nous est déjà arrivé d'en discuter, et c'est pour ça que chaque nouvelle adhésion est toujours discutée au CA. Les gens peuvent pas juste rentrer comme ça. Quand ils veulent rentrer, ils nous posent leur candidature et on en discute tous autour de la table. La plupart du temps, il n'y a pas de souci, c'est de nouvelles structures, etc. Mais voilà, on ne s'est jamais retrouvé face au cas, mais on fait attention. Et l'avantage aussi d'avoir beaucoup d'acteurs dans le réseau, c'est qu'on a aussi du coup la vision de beaucoup de personnes différentes de ce réseau, enfin de cette structure-là. Et ça nous permet d'avoir plein d'avis divers au moment de faire notre choix.
Ouais, moi j'ai une réponse, un exemple très précis qui est arrivé genre là il y a quelques semaines, donc c'est même encore frais pour moi. Mais nous, on a eu un souci avec une salle où il y a eu des faits qui ont été remontés d'agressions sexistes et sexuelles. Une salle avec laquelle, du coup, on est en partenariat avec Union. On fait des événements là-bas, ça s'appelle le Portobello, c'est une petite salle, et sur Caen. Et malheureusement, la réaction du Portobello a été très décevante et ça s'est soldé par ils ont porté plainte pour diffamation contre la victime présumée. Enfin, voilà, compliqué. Du coup, nous, avec Union, ça a été du coup un vrai sujet de est-ce qu'on continue le partenariat avec eux ? Est-ce qu'on continue à faire des événements là-bas ? Parce que, effectivement, je parlais du Cargo et du BBC. Le Portobello, c'est la troisième et dernière salle avec laquelle on peut faire de la techno à Caen. Donc, c'est très limité. Et du coup, ça donne un espèce aussi de pouvoir de cette salle. On a besoin d'eux pour juste exister et diffuser. Du coup, c'était une vraie question. Et en plus on avait un événement là le 28, donc il fallait qu'on prenne une décision rapidement. Collectivement avec Union, on a décidé qu'on ne ferait plus d'événements avec eux, et j'ai pris je suis un peu montée publiquement au créneau pour aussi, ils ont fini par retirer leur plainte, voilà, donc ça c'est cool, à contre-cœur je pense, mais au moins la plainte a été retirée. Et du coup, on est tombé sur un cas de figure où comment on fait ? C'est-à-dire que en tant que Union, on a pris cette décision d'arrêter de travailler avec eux. Mais est-ce que ça veut dire que les associations qui font partie d'Union soutiennent ce truc-là ? Enfin, d'un coup, il y avait un truc un peu. On s'est dit, mais comment on fait dans les faits, quoi ? Comment on fait dans les faits ? C'est beau ce que je dis. Mais du coup, il y a certaines des associations de Union qui continuent à travailler avec eux, et je me vois pas de toute façon de leur dire quoi que ce soit. Enfin, c'est aussi un vrai besoin de travailler avec des salles. Et même si je regrette un peu cette décision, mais c'est pas grave. C'est enregistré, c'est ça ? Mais voilà. Et il s'est posé la question aussi de laisser tout simplement le choix au DJ en pleine conscience. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un débrief auprès de l'ensemble, parce qu'on a un réseau de communication sur Messenger, tout simplement, avec l'ensemble des DJ, membres de chaque collectif. Et du coup, j'ai fait un débrief de ce qui s'était passé. Machin, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est une histoire un peu longue et un peu glauque. Du coup, chacun peut choisir en son âme et conscience. Mais au moins, du coup, ça permet aussi d'avoir cette information qui a circulé. C'est-à-dire que là, dans tous les gens d'Union, personne n'est pas au courant. Donc c'est un vrai avantage de pouvoir, même si on ne peut pas dire, enfin moi en tant que présidente, je ne peux pas leur dire non, vous n'allez plus jamais mixer là-bas, ou non, vous n'organiserez plus jamais de soirée là-bas. Au moins, il y a une information qui circule et qui est connue de tous et toutes.
Non, effectivement, vous jouez plus là-bas. Maintenant, c'est bien que voilà, c'est plus compliqué que ça. Mais c'est vrai que l'idéal, ça serait d'être radical, mais c'est pas aussi simple.
Je suis d'accord avec toi, et même moi, en tant que juste personne et en tant que féministe militante, ça m'a vraiment posé question, parce que ma parole n'est pas que ma parole. Ma parole, c'est aussi en tant que présidente d'Union, avec ses 50 DJ derrière, où moi, j'ai pas besoin du Portobello. J'ai pas une pression de ça va pas faire avancer ma carrière, j'en suis plus à là, entre guillemets. Ça fait un peu je flex, mais voilà. Et sauf qu'en fait, je représente des DJ qui sont très jeunes, très débutants, et qui ont besoin de ce lieu-là pour s'exercer, pour être tremplin, etc. Et d'un coup, je me suis retrouvée aussi à me dire, ah, si je m'engage, publiquement, etc. Et ben c'est pas juste moi, c'est aussi par rapport à toutes ces personnes là que je vais emmener avec moi dans cette parole là. Et ça a été des longues nuits de réflexion de comment je me positionne par rapport à ça.
Alors, on avait eu un cas assez similaire à Grenoble, où il y avait eu une histoire, une sombre histoire d'une personne qui s'était fait agresser par un barman de la salle, et la salle avait couvert cette histoire, et la victime était venue en parler au réseau. Et il y a eu plusieurs actions. De base, on avait. Alors, moi, j'étais pas au cœur de ces actions-là de manière. Enfin, j'y ai pas été confronté directement. Mais je me souviens que l'ancienne directrice d'ADRA, du coup, Émilie, avec la service civique de l'époque, je sais plus qui c'était, avait eu pas mal de réunions avec la salle pour essayer de leur faire entendre raison sur que la situation, elle était quand même problématique. Suite à ça, il y avait eu, du coup, bien sûr, l'information qui avait été glissée dans l'intégralité des collectifs de adhérents et non adhérents de la structure, et on avait fini avec parce que la salle ne s'excusait pas de toute cette situation, même si des excuses ne font pas tout, c'est déjà un premier pas. Et du coup, il y a eu une lettre ouverte qu'on avait mis sur les réseaux, qui est pas mal incriminante. À juste titre, et pour la petite histoire, la lettre d'excuse de la salle en question sont arrivées en septembre dernier, alors que l'histoire date de 2022. Voilà. Mais, ça a un peu débloqué l'histoire.
Non, oui, juste très très bref là-dessus, mais le fait d'être structuré à plusieurs associations, même si les associations continuent à faire chacune de leur côté, le fait d'avoir union, ça permet aussi d'avoir un vrai point de pression par rapport à ça. Et je pense que c'est important et nécessaire. Ils ont fini par... bien sûr, après, si dans les faits, ils ont quand même retiré leur plainte, je pense qu'il n'y aurait pas eu cette pression de notre part, de la mienne, etc., peut-être ça, la plainte n'aurait jamais été retirée. Donc c'est une petite victoire, mais une victoire quand même.
On a une autre question ici.
Alors, je ne sais pas si c'est une question, mais en vous écoutant, les situations sont différentes dans les villes, mais par rapport à ce qu'on vit sur Amiens, j'ai le sentiment que... les esthétiques comme la techno, les musiques électroniques, certains courants du hip-hop, des bass music, enfin j'en passe à des meilleurs, sont mieux accueillis dans les SMAC, dans les lieux qui sont normalement plus dédiés au spectacle vivant, même si bien sûr ils accueillent aussi la techno, du hip-hop, etc., que par des clubs ou des lieux alternatifs, sauf exception. Et j'ai l'impression qu'on a un peu le même schéma aussi sur Amiens. Et je me pose cette question-là justement de cette espèce de différence, qui peut-être française, je ne sais pas, entre les lieux dits de divertissement et les lieux dits culturels. Où les lieux qui finalement accueillent les esthétiques comme les nôtres, entre guillemets, sont des lieux qui ont un DA, qui ont une volonté de travailler avec le territoire, avec les gens, etc. Et puis les autres lieux qui, pour parler vulgairement, s'en battent les couilles, en fait. Voilà, donc, est-ce que ce n'est pas une culture française un peu, contrairement à ce qu'on peut voir dans d'autres pays? Je n'ai pas donné l'exemple de Berlin, qui est extrême, mais d'autres villes aussi. Est-ce que je m'aveugle complètement et qu'en fait, c'est juste par territoire que ça se passe?
Alors oui et non. Déjà, il y a une bonne distinction à faire. T'as raison. C'est les lieux culturels et les lieux de divertissement. Il y a une autre distinction à faire. C'est les clubs et les salles de concert. Et après, c'est beaucoup de gestions qui sont différentes. Mais en général, les salles de concert étant tournées plus vers le culturel, quand ils s'ouvrent à la musique électronique, ils essayent de le faire bien. Vu que en plus de ça, la plupart des salles n'ont pas forcément les compétences pour, ils essayent d'accueillir justement la scène locale qui le fait un peu mieux que ça, etc. Les clubs, ils ont tendance à être un peu plus fermés, à avoir leur DJ résident, à pas avoir de subvention et à juste penser business to business, et où du coup quand tu te fais moins appel à ces acteurs locaux, où on sait pas trop si ça va remplir, ça va coûter cher, faut filer de la thune après là aux bénévoles, on sait pas trop pourquoi, Ils te ramènent 3-4 artistes, dont un qui vient de je sais pas où, ça coûte une fortune, alors que tu peux juste mettre le DJ résident que tu mets tous les soirs et ça te coûte pas cher et les gens ils viendront quand même. Et du coup, tu te poses pas trop de questions. C'est vrai que là tout à l'heure, je disais qu'on avait 3 salles à Grenoble. Dans les faits, on en a beaucoup plus. D'après des boîtes de nuit et clubs, on en a plein. C'est juste qu'il y en a plein où on n'est pas les bienvenus et où dans les faits, personne n'a envie d'aller. Le Vertigo, le Vieux Manoir, autre, où c'est vraiment la boîte de nuit comme on l'entend, avec des tables, avec et il y a aussi ça, c'est que là aujourd'hui les acteurs locaux qui s'investissent énormément dans la musique électronique, qui font ça de manière bénévole, etc. C'est aussi parce qu'on s'est, enfin je parle un peu au nom de tout le monde, mais je pense qu'on est un peu tous dans le même cas, c'est qu'on s'est un peu épris de cette culture de la musique électronique et cette culture de l'underground qui va avec, et que les boîtes de nuit n'ont pas du tout cette culture-là, et ont souvent encore ce truc de genre la table, toi t'arrives avec ta table, tu prends ta bouteille de Grey Goose et tes potes, et tu vois, genre, et c'est pas du tout ce que nous on a envie de représenter, même souvent plutôt l'inverse, et je pense que ouais, y a une grande disparité là-dessus. Et je pense que les salles de concert justement sont des lieux un peu plus propices entre guillemets à nos musiques. Le problème, c'est que les salles de concert ont aussi leur difficulté à pouvoir ouvrir et avoir des dates nocturnes sur autant de dates qu'il le faudrait pour contenter tous les collectifs, quoi.
Ouais, tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et nous à Caen, là, on est en train de s'ouvrir à des clubs et des boîtes de nuit. Avec lesquels on travaillait pas du tout et qui faisaient vraiment de la musique de boîte de nuit, quoi. Et finalement ça marche assez bien, mais ça a demandé vraiment du temps, quoi. Ça fait quelques mois que c'est en train de se passer, parce que c'était des pareil, c'est de l'affect, où en gros, il y a un des collectifs dont les gens traînaient pas mal là-bas. Et par affinité, ça s'est dit, pourquoi pas une soirée pour voir. Et qu'il y a aussi un argument commercial où nous, on a tellement d'événements dans les bars, de petits trucs dans les bars qui fonctionnent très, très bien. Et je pense que les boîtes de nuit, elles ont un peu regardé ça en mode, mais... il y a du monde dans les bars quand il y a de la techno, en fait. Donc, pourquoi pas dans la boîte de nuit, quoi. Donc, je pense que c'est une espèce de concomitance des deux qui fait qu'on est vraiment en train d'aller sur des lieux qu'on n'avait pas du tout imaginé à la base. Je pense aussi à l'écume des nuits, qui est un bar de nuit auquel je vais depuis que j'ai 17 ans. Du coup, pas du tout l'âge d'y aller, mais j'y allais quand même. Et qui est vraiment une institution sur Caen de l'endroit où tu vas finir ta soirée, quoi. Et là, il se trouve qu'à l'écume des nuits, il y a de plus en plus de soirées techno. J'ai peut-être organisé une soirée là-bas. Enfin, c'est complètement improbable. Mais c'est chouette de pouvoir avoir ce discours qui change, quoi. Enfin, en tout cas, nous, à Caen, il y a une vraie ouverture là-dessus. Après, les conditions d'accueil, pas humaines, mais tout simplement techniques, sont vraiment pas à la hauteur, quoi. Mais est-ce que ça, justement, nous avec Union, est-ce que on pourrait pas aussi essayer de les accompagner, de les faire réfléchir sur des conditions d'accueil techniques différents, etc. Voilà, on est sur ce genre de questions.
Bien, nous aussi à Amiens, on a rencontré ce type de choix, de proposition, où à la base, on avait quand même un club qui a fermé, qui était boîte de nuit classique. Ils ont voulu refaire toute une structure pour faire vraiment que de la techno de minuit à 6h du matin. Sauf que du jour au lendemain, pour aucune raison réelle, ça a été abandonné. Pour aujourd'hui, plus ou moins continuer dans la structure boîte de nuit classique. Et d'autres boîtes de nuit se disent effectivement, dans des clubs jusqu'à 2h du matin, ça fonctionne bien, il y a du monde. On va peut-être proposer ça. Mais sauf qu'aujourd'hui, l'image... Enfin, c'est pas l'image, mais... On a déjà eu le cas où on a fait une tentative dans une boîte de nuit où il y a un boug, il est arrivé, il a balancé son verre sur nous en disant « c'est quoi cette merde ?» parce qu'il n'était pas prévenu. Donc je me dis aujourd'hui, nous, de mixer de la techno dans des clubs qui ne sont pas forcément habitués à ça, déjà par rapport à l'accueil, par rapport à la clientèle et tout, est-ce que vous ressentez un peu la même chose ou est-ce que on va s'adapter, peut-être avec le temps, les choses feront que les gens s'habitueront. Le mardi, ce sera ça. Enfin, je dis mardi, mais le mercredi, ce sera ça et le jeudi, ce sera de la techno et les gens sauront, quoi, je sais pas.
Ouais, j'ai pas d'exemple précis de choses qui auraient pu mal se passer, comme tu viens de dire, mais oui, je pense que il y a de toute façon une éducation des publics à faire, et ça, faut en passer par là. Mais après, on peut aussi voir ça de manière très positive et dire que bah ça ouvre à des publics qu'on n'aurait pas eu, qui sont des publics habitués du lieu et pas de la musique, et peut-être ça va faire naître des nouvelles vocations, on ne sait pas, mais oui, je pense qu'il y a un temps de transition qui, bah, par exemple à l'écume, là, pour, par rapport à moi, pas du tout par rapport à Union, mais au moins ça répond à la question, en fait l'entrée de l'écume elle est gratuite. Et bah moi, j'ai un plateau avec des DJ que j'ai envie de rémunérer. Et je dis, mais t'es sûr, il n'y a pas moyen de... Il me dit, bah ouais, mais en fait, si je fais une soirée payante, et ben mes habitués, ils ne vont pas comprendre, ils vont faire la gueule, ils vont bouder l'écume, quoi. OK, du coup, on a essayé de trouver bah, des terrains d'entente, des compromis de comment on pouvait faire pour que bah, sa clientèle ne soit pas déçue et que la soirée puisse quand même se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Donc, tu vois, je pense que c'est un truc un peu à y aller petit à petit, petit bout par petit bout. Voilà.
Je rebondis sur ce que tu dis. Tu parlais d'éducation des publics, mais du coup, il y a aussi l'éducation aux lieux, enfin, l'éducation des personnes qui gèrent ces lieux-là. Que ça soit donc à la fois du côté commercial, boîte de nuit, établissement nocturne. Sur ben oui, c'est important de rémunérer des artistes, oui, une programmation culturelle, c'est faire venir des DJ, ça a un coût, enfin, etc., etc. Mais du côté des salles subventionnées type SMAC, il y a aussi cette acculturation à faire parce que c'est des salles qui sont structurées historiquement autour des musiques plutôt rock, pop, etc. Et du coup, la connaissance de comment fonctionne le milieu de la nuit. Elles l'ont pas forcément, et une équipe hein, d'une salle, pour l'avoir observé hein, dans le réseau, ils sont pas tous partants d'accueillir une soirée jusqu'à 6h du mat, même 4h du mat sur le format nocturne d'une SMAC. Ils ont pas forcément l'habitude et c'est pas forcément dans leurs envies, etc. Donc ouais, il y a ce travail de comment tu ta culture, où tu fais connaître les réalités de ce milieu-là, qui est assez important, je trouve. Voilà, juste pour compléter. Complètement.
Je me permets, puisque Catherine me fait rebondir là-dessus. On accueille depuis... On va accueillir la troisième édition de la soirée culture organisée par le SDMEA à la Lune des Pirates, qui est une soirée avec une ouverture un peu plus tardive. Bon, on reste sur du 2h malgré tout, parce qu'après c'est pareil, hein, c'est des autorisations. Nous, on a des autorisations d'ouverture jusqu'à 1h du matin, et si on veut faire demander une autorisation d'ouverture de 2h du matin, il faut qu'on passe par la préfecture, qui nous l'accorde ou pas, et ça nous est déjà arrivé de ne pas l'avoir, quoi. Le fait d'avoir confié à SDMEA l'organisation de ces soirées-là, elle vient de deux choses que vous avez déjà dit largement en ce qui concerne une salle de concert type SMAC. C'est que nous, on essayait d'organiser des soirées électro, techno, etc. et ça marchait pas. On n'avait pas de public. Donc soit c'était l'artiste qui ne faisait pas venir du monde, soit on n'arrivait pas à toucher ce public-là. Et puis quand on a eu l'occasion en fait de se rencontrer avec Emosia, plein de collectifs déjà et de labels sur Amiens, qui a eu cette proposition-là déjà d'une structure, d'un réseau, enfin d'un collectif SDMEA, moi j'appelle Syndicat des Musiques Actuelles, et je me trompe à chaque fois, et puis d'avoir cette proposition de soirée où la première s'est excellemment bien présentée, faite, enfin voilà, c'était complet. La deuxième c'est pareil, et la troisième on l'accueille là au mois de mai, rappelle-moi la date Thomas, hein, 17 mai, voilà. Petite chose là-dessus. Et c'est toujours d'excellentes soirées avec énormément de monde dans un espace que moi, enfin en tout cas, j'espère très safe, avec aussi la possibilité de faire venir des assos de prévention justement sur les risques auditifs, addictifs, enfin et voilà. Et puis nous, on est surtout. Hein, et ben voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que nous, en plus, on est affilié à ACT-RIGHT en ce qui concerne VHSS. On est très attentif à ces sujets-là, en plus de tout ce qui est discrimination de genre, mixité, etc., etc. C'est pas toujours évident, en plus, de porter ce genre de discours-là. Voilà, mais en tout cas, on le fait, puis on le fait bien ensemble. Voilà.
Ben, ça me permet de rebondir sur quelque chose et qui englobe pas mal de sujets qu'on a pu aborder. C'est que faut, je pense, et voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais je pense qu'il faut pas oublier que, en tant que collectif, que ce soit auprès des institutions, que ce soit auprès des salles, quel que soit l'interlocuteur qu'on ait, il faut pas toujours s'écraser. Il faut pas oublier que on amène aussi pas mal de choses. On amène une équipe qui a du savoir-faire, qui est capable d'organiser un événement de A à Z et que cet événement se déroule bien. On est capable d'amener une programmation. On a un public avec lequel on a une communication récurrente sur les réseaux, un public qui nous suit plus ou moins, mais un public qui existe. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut souvent garder en tête sans que, enfin voilà, se mettre sur un piédestal et que prendre un melon absolu d'un coup, mais c'est vraiment important. Et il faut pas oublier aussi les compétences et tout ce qu'on peut amener dans un événement. Et je pense que là, du coup, l'histoire de la lune rousse le prouve. La lune des pirates. Je mélange.
La lune rousse, c'est la bière.
Ouais, pardon.
On va la boire après. ouais, et en plus, alors j'ai oublié d'une chose, nous ce qui nous a doublement intéressé, enfin il me semble, c'est qu'en plus en termes de renouvellement de public, c'est super ce genre de soirée là, parce que soudain on touche des gens qui ne sont jamais allés à la Lune des Pirates parce que soit ils pensent que c'est rock, soit ils pensent que c'est un lieu de drogués, de camés, j'ai déjà entendu, enfin bon, bref, des bêtises quoi. Et puis une fois que tu fais un premier pas dans une salle, pour une SMAC ou n'importe quel type de structure culturelle, bah tu dis, ah mais en fait c'est je m'en faisais toute une image, mais en fait c'est très simple, tu peux le faire dans un théâtre, tu peux le faire dans plein de choses quoi. En fait c'est vraiment ce sujet là notamment pour des salles comme les nôtres où on commence à avoir un public un peu vieillissant et qu'on cherche justement à renouveler ce public là voilà, enfin ce genre d'accueil de soirée, on en parle sur la musique électro, on le fait aussi sur le musique extrême métal, voilà, et pourquoi pas sur d'autres choses après quoi.
C'était super.
Merci.
Je suis bien d'accord. Bravo. Est-ce que vous avez... Oui.
Je voulais rebondir un peu sur ce qui s'est dit. En vous écoutant, j'ai l'impression qu'il y a à la fois un effet entonnoir et un rapport de dépendance au lieu, finalement, quel qu'il soit. Après, avec cette alternative qu'on sait tous, de louer un lieu, bien d'aller chercher un lieu un peu alternatif, en do it yourself.
C'est un sujet qui arrive bientôt, ça.
Ok, bon, je spoil déjà là. Ouais. Et du coup, ça, c'est hyper chronophage. Enfin, voilà, il y a des collectifs sur Amiens, il y a des qui font ça très bien d'ailleurs. Faut avoir la force, les compétences, l'occasion, l'opportunité de le faire. C'est pas toujours faisable. Parfois, c'est faisable, mais dans des limites aussi qui sont celles de la salle, qui parfois n'est pas adéquate non plus. Qu'il faut voilà réhabiller les autorisations aussi. On parlait des riverains tout à l'heure aussi. Avec l'effet Covid où les horaires se sont un peu restreints, on s'est tous fait un peu enfumer quand même, faut quand même le dire. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas une quatrième alternative quoi, finalement ? C'est ça ma question. Tu vois. Alors tu vas me dire, ouais, il faut faire un festival type Tomorrowland, mais là
les
ouais.
Festivals ont exactement la même problématique, c'est que leur lieu, il faut qu'ils le trouvent, il faut qu'ils le gardent, et il faut qu'ils arrivent à le garder dans la longueur. C'est en vrai, c'est un problème qui est juste le même pour tout le monde, et c'est une vraie purge. Mais ouais, il y a tellement de difficultés. J'avais bossé sur le festival Évasion à Lyon. Et le festival Évasion s'est organisé sur le parc Miribel Jeune Âge, qui est une plage magnifique à 20 minutes en vélo de Lyon. Plage en sable fin, trop jolie, mais qui de base est une plage privée pour des enfants. On a installé 5 scènes et on a mis de la musique électronique de midi à minuit. Forcément, pendant 2 jours, bon, ils s'attendaient à ça, mais quand c'était là, ils ont un peu tiré la gueule. Et ça a été un vrai combat de maintenir l'édition suivante et de leur faire comprendre que là, on venait quand même de faire découvrir le parc à 6000 Lyonnais qui n'avaient juste pas existence de cette plage, qui était à 20 minutes de chez eux en vélo. Et il a fallu vraiment insister pour que le festival ait encore lieu, alors que le festival s'était parfaitement bien déroulé. Et c'est juste un projet, enfin c'est un problème qui est récurrent, qui est continu. Je parle même pas de Château Perché qui se met des purges absolues chaque année. Et quoique maintenant la tendance s'inverse et c'est carrément les châtelains. Mais eux c'est une exception rare, mais c'est les châtelains qui vont les chercher. Mais ouais, c'est une problématique que tous les collectifs ont, quelle que soit la taille, quelle que soit... Et par contre, tu le disais très bien, c'est qu'il y a pas mal de collectifs aussi qui se différencient par leur capacité à trouver des lieux. Nous, on a un petit collectif à Grenoble qui s'appelle La Draille, qui sont hyper chauds pour trouver des petits lieux et apporter de la nouveauté en fait. Mais du coup, c'est souvent aussi au détriment de line-up. Ça va être au détriment d'installation sur ton événement. Enfin, quoi qu'il arrive, l'économie de nos événements sont ce qu'elles sont. Et on peut pas, il y a un moment, on peut pas tout faire. On peut pas avoir un bête d'artiste, un bête de lieu, un événement carré de A à Z, des activités, etc. Parce qu'à un moment, il faut bien que, enfin, tomber sur un équilibre, quoi. Et c'est toujours une complication. C'est un peu au jugé de chacun.
Nous, il y a plusieurs collectifs qui ont tenté sur Caen de faire des propositions d'ouverture de lieux auprès de la mairie, etc. Pour l'instant, ça n'a pas abouti. Mais justement, avec le fait de développer Union et de voir un truc un peu plus grand, on espère aussi pouvoir accompagner un collectif ou même plusieurs collectifs. Enfin, en gros, faire du réseau pour que peut-être plusieurs collectifs se mettent ensemble avec cette envie d'ouvrir un lieu et de pouvoir aider sur du lobbying auprès de la mairie, etc. Donc, ouais, nous, on a vraiment ça en tête pour quand. Après, est-ce que... Parce que bon, faut avoir les épaules aussi pour vouloir gérer un lieu, etc. Je pense que quand t'es DJ, tu peux pas être et en gestion du lieu et DJ. Enfin, ça, c'est compliqué. Donc, faut trouver les bonnes personnes pour porter ce projet-là. Mais en tout cas, nous, avec Union, on aurait plaisir à accompagner une dynamique comme ça, quoi.
Dans le même genre, on avait, du coup, j'en avais parlé tout à l'heure, mais quand on avait eu notre réunion avec la mairie, là, il y a pas très longtemps, où on a réuni tous les acteurs grenoblois autour de la table et pour parler d'open air au sens très large, il y avait aussi eu le sujet de quel parc vous voulez exploiter. Il y a eu une très longue liste de parcs parce que forcément à tous les collectifs on avait un peu écumé Google Maps pour trouver la moindre parcelle d'herbe pour installer un système son. Du coup la liste a été très longue et à la fin la mairie elle a dit ok, bah, on va prendre lui, lui et lui et vous vous débrouillez. Et alors là, s'en est suivi, on a fait ce qu'on a pu, mais ça n'a pas été entendu. Et là, du coup, l'intégralité des open-airs de mars à octobre à Grenoble seront sur deux lieux. Et un troisième pour quelques rares exceptions, hors fête de la musique, où forcément il y a trop d'acteurs pour que... Voilà. Mais voilà. Et c'est comme ça que la mairie a réglé le problème à sa manière aussi. Et ça, malheureusement, le problème, c'est que tu ne peux pas faire grand-chose, même avec un réseau. On a beau essayer de monter au credo aussi, d'essayer d'argumenter que... tu peux ouvrir à d'autres lieux, tu peux ouvrir à des lieux plus loin du centre-ville, essayer d'amener d'autres événements, t'essayes de parler leur langage, de dire que t'amènes des nouveaux publics dans les quartiers, que t'amènes, enfin tu vois, t'essayes de dynamiser des quartiers, enfin bref, tu sors tout ton lexique institutionnel et ben, j'espère en tout cas qu'à Amiens vous avez une mairie un peu plus à l'écoute. Aïe. Pas de soucis.
Voilà, on n'a pas des horaires. voilà, bah, merci pour vous. Puis je pense qu'on aura un débrief.
Merci à vous.
Merci, mais je vois qu'on a à peu près les mêmes,
les mêmes problématiques.
Voilà, mais on n'abandonnera pas pour autant.
C'est au plaisir d'échanger nos contacts.
Carrément.
Pour rester dans la communication. Et...
Avec grand plaisir. Bah, merci à vous.
Merci.
À
la prochaine.
Merci beaucoup.
Il nous reste une petite trentaine de minutes. On est un peu parti dans tous les sens, mais c'est très bien.
Ouais.
Est-ce qu'il y avait des sujets que vous vouliez aborder qu'on n'a pas encore traité ?
Eh ben moi, il y en avait un. C'était sur les difficultés rencontrées à ce genre de structure. Il y en a un dont j'avais vraiment envie de parler, qu'on avait rapidement évoqué. On en avait parlé quand on s'était rencontrés un peu plus tôt. Il y a un vrai truc auquel il faut faire attention quand vous essayez de vous structurer sur un territoire, c'est les guerres d'ego. Il faut vraiment arriver à mettre ça de côté. C'est... pas toujours facile, on peut pas s'entendre avec tous les collectifs, avec toutes les mentalités de tous les collectifs, etc. Mais je pense qu'il faut faire la part des choses entre les activités de DJ et de structures de collectifs que vous pouvez avoir et vos activités au sein du réseau. Et c'est vraiment un truc qui est hyper important, qui n'est pas toujours imprégné par tout le monde. Et moi-même, je fais des erreurs vis-à-vis de ça. Il y a des personnes que j'apprécie pas spécialement et des fois, mes états d'âme débordent un petit peu sur ce que ça devrait, mais il faut vraiment y faire attention, parce que ça, c'est le genre de truc qui flingue complètement une initiative de réseau et de regroupement collectif. C'est ce genre de petites graines naissantes au sein du truc qui finissent par faire exploser le truc de l'intérieur, alors que c'est tellement de temps à réussir à réunir justement et à mettre de côté ses égos pour se réunir autour d'une table et se donner des techniques et des conseils et avancer de manière saine. Et c'est pas évident. Je pense qu'il faut vraiment faire attention avec ça.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Nous, c'est une vraie question qu'on est en train de se poser là en voulant faire grandir et grossir Union. C'est parce que on s'entend pas forcément avec tout le monde, quoi. Et on aimerait justement mettre vraiment ça de côté et pouvoir offrir du coup. Une plateforme, un réseau, une structure qui soit vraiment ouverte et neutre. Après, nous, le truc, c'est que comme on est un peu enfermé dans nos 5 collectifs, je pense qu'il y a d'autres collectifs qui nous voient un peu comme ça, en mode de loin. Du coup, ça va être un vrai challenge pour nous, pour l'Union 2.0, si je puis dire, de pouvoir faire un peu table rase de ça et proposer quelque chose de très neutre, en fait. De juste, en fait, venez et on va faire des choses ensemble et c'est pour tout le monde. Donc, je ne sais pas encore comment on va négocier ce virage-là. J'ai bon espoir, cela dit. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me trotte en tête.
Je
ne
sais plus ce qu'il y avait d'autre. Les bénévoles... On avait les financements.
Ah oui, les financements, ouais, on n'en a pas beaucoup parlé.
C'était ma question à un moment sur la question des modèles économiques. Comment chacune de vos organisations se finance ? J'imagine qu'il y a des cotisations de vos adhérents. J'imagine qu'il y a peut-être des appels à projets. On en a parlé par moment. Mais c'est quoi à peu près vos sources de financement ?
Alors, nous, on a beaucoup de sources de financement différentes. On a, mais sachant qu'on a assez peu de dépenses qui nous emmènent à un problème dont je pourrais vous parler après. Le premier, c'est que notre première source de financement, c'est forcément les subventions. C'est une des chances qu'on a eues dans la création de notre réseau, c'est que la mairie nous a filé des subventions. Forcément, c'était un appel à projet. Ça ne nous empêche pas de devoir nous rebattre pour avoir la même somme tous les ans. Mais ça, c'est le jeu des subventions. Ça fait partie du charme du truc, quoi. Du coup, voilà, ça, c'est vraiment le plus gros. Ça nous permet de payer notre service civique, ça nous permet de payer une grosse partie de l'activité à l'année, etc. Après, on a, sur nos différentes formations, on a deux tarifs. On a, les formations musicales, donc mix et MAO, ça, tout est payant. C'est pareil pour tout le monde, c'est à hauteur de 10 euros, je crois, même si les formations coûtent plus cher que ce qu'on peut récupérer sur les recettes. Mais pareil, ça passe sur les subventions, mais ça fait partie des ressources propres qu'on peut avoir. Sur les formations organisationnelles, on a 3 tarifs. Du coup, on a le tarif plein pour une personne qui est extérieure au réseau. On a un tarif préférentiel pour les personnes qui font partie du réseau. Et c'est gratuit pour les membres du CA, ce qui est plutôt pratique. C'est une manière de se rémunérer comme une autre, même si encore une fois c'est 10 euros une fois de temps en temps. Ça permet de faire des formations, d'y jeter un œil ou même en visio, quoi. C'est quand même plutôt chouette. J'en ai fait pas mal là dans les dernières années. Et on a du coup forcément les cotisations, même si ça représente pas grand chose. Très important aussi, si vous finissez par monter votre réseau, de bien réfléchir à votre échelonnage de cotisations et de voir que chacune des cotisations débouche sur quelque chose, et que c'était un peu la question de Noé tout à l'heure, de se dire que en tant que personne extérieure à tout ça, quel intérêt j'ai aussi à rentrer dans le réseau. Parce que les actions du réseau, le but c'est aussi que le public ne le voit pas forcément. C'est que des actions avec les institutions, c'est que des trucs de dialogue, d'échange, de représentation. Et ça, c'est pas palpable. C'est pas quelque chose sur lequel on communique. On fait pas un post Facebook en mode « Hey, on a envoyé un mail à la mairie, let's go ». Du coup, c'est important aussi de montrer qu'on amène quelque chose, et que si la personne, elle te lâche 20 balles, 30 balles, 50 balles pour son année d'adhésion, et elle ait quelque chose en échange. Et notre dernier fonds de ressources propres, c'est la location de la régie, dont on n'a pas déjà parlé plusieurs fois, qui du coup mine de rien, fait une centaine d'euros par semaine. Et ce qui nous emmène du coup à un problème, c'est qu'actuellement, on a pas assez d'argent pour avoir un salarié à mi-temps sur l'année, sur notre cycle annuel, mais on a trop d'argent pour justifier nos subventions. Du coup, à chaque fois, à chaque mois d'octobre, on se dit, bah, on a 10 000, on en fait quoi? Le truc, c'est qu'on veut pas, du coup, comme on reste dans la logique de réseau, on veut pas non plus, on veut pas devenir une banque. La question a déjà été soulevée de faire des prêts à des assos, mais c'est pas le but. Puis là, après, on s'engage dans des histoires de rends-moi l'argent. Enfin, bon, bref, on n'est pas une mafia, quoi. Et puis, je suis pas sûr que ce soit légal. Et du coup, c'est le but, c'est quand même de toujours travailler sur le réseau. Alors, ça permet de monter des actions, etc. Mais ouais, chaque année se pose la question. Mais dans les faits, ça amène aussi une réponse assez simple, hein, c'est de juste investir dans du matériel et de mutualiser ce matériel-là. Et ça implique du coup toutes les discussions qu'il va y avoir de quel matos on a besoin, de qui, de quoi, etc. Et ça, c'est toujours qui tire la nappe vers soi le plus fort. Et on y revient, et l'histoire d'ego, etc. Et c'est assez cyclique.
Ouais, nous, nos principaux fonds propres, ça reste quand même l'événementiel, du coup, quand on est rentable. Et après, on a du coup tout le travail du coup sur NDK aussi, qui n'est pas rémunéré, mais qui est compensé financièrement. Donc on a ça. La question de l'adhésion, c'est vraiment une question qui nous pose un gros souci, enfin de l'adhésion financière j'entends, parce qu'on a des assos qui sont tellement pas du tout comparables dans leurs revenus, dans leurs fonds propres à elles, qu'on a du mal à avoir un suivi très, très sérieux de cette histoire de cotisation. Où je crois qu'on a même un peu laissé tomber de demander des cotisations à nos 5 assos, là, parce qu'on se rend compte que, je sais pas, Black Moon, ça tourne beaucoup, No One Like Us, ça tourne beaucoup, Les Villageois, ça fait de la free party, donc et ça tourne pas. Donc, dans l'idée de vouloir rester ensemble et parce qu'on aime travailler ensemble, qu'on est tous très copains, tout ça... On met un peu ça de côté, c'est vrai, c'est sûr, voilà. Et après, là, on est en train d'aller vers de la subvention. Donc, c'est pareil, l'étape pour Union 2.0.
Et ben, du coup, j'ai la solution à ton problème. Nous, on a fait des adhésions par chiffre d'affaires de la structure annuelle. Et du coup, parce que nous, on avait un peu le même problème. On a à la fois... pour faire le plus éclaté, enfin le plus d'un côté et de l'autre, on a d'un côté la DRAI, qui est un collectif de 6 étudiants qui s'est mangé la gueule sur le seul événement qu'ils ont essayé de faire, les pauvres. C'était un super événement en plus, mais qui galère un peu. Et en parallèle, on a ADRA qui tous les ans ramène 10 000 personnes par jour pendant 5 jours. Donc forcément, les économies n'étaient pas du tout les mêmes. Et du coup, la meilleure solution, ça a été de faire par chiffre d'affaires. Et du coup, il y en a 5 ou 6 paliers, je ne sais plus. Et ça va de 5 à 80 euros, je crois, l'adhésion à l'année. Et elle t'apporte les mêmes choses, mais juste, du coup, ça correspond à genre... Ouais, c'est ça.
C'est trop bien. Pour rebondir, dans les réseaux régionaux comme Haute Fidélité ou Grabuge, Norma, etc., c'est souvent ces systèmes de paliers... et nous, on a rajouté un critère qui est le pourcentage de musique actuelle dans la part totale d'activité. C'est-à-dire que tu as des acteurs qui ne vont pas forcément faire beaucoup de musique dans leur panel total d'action, mais qui vont en faire un peu sur des territoires où ce sont les seuls à en faire. Et c'est important de les avoir dans le réseau. Du coup, on a adapté... Donc en fait, c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que je posais aussi la question de la charte et des critères d'adhésion, c'est que ça permet ensuite de critériser et de vraiment faire à la carte en fonction de vous ce que vous portez, vos valeurs, les objectifs de la fédération et ensuite voilà, d'inclure des structures à des échelles différentes. Et...
Ok, nous du coup 100% de musique actuelle, mais ok, je vois, trop cool. Est-ce que vous avez encore des questions? On arrive au bout.
On boit une bière.
On va pouvoir boire une bière et fumer une clope. Bon, on la boira pas ici. La Lune des Pirates nous accueille pas. Tant pis. J'incrimine. crois, au montage.
Bah, merci tout le monde, merci à Technopole pour cet événement, merci à La Lune pour l'accueil et merci à Zélie aussi et à vous, à tous les deux d'être venus de loin, et merci à tout le monde. J'espère que ça va semer des petites graines et voilà. En tout cas, si vous avez besoin de nos contacts, on peut vous donner nos coordonnées. Sinon, on demandera à La Lune de nous fournir vos adresses mail. L'idée, c'est qu'il y ait aussi, voilà, c'est un premier temps et il y en aura d'autres. Voilà.
Ben ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'intérêt sur la recherche de lieux et je crois que c'est un des soucis qu'on avait identifié sur ce territoire-là. Donc, je crois que c'est une des prochaines conférences qui arrive.